Le journal Corinne Audouin.
Bonsoir. Une candidature de plus à gauche, pourquoi faire? Christiane Taubira se lance dans la course à la présidentielle. Certains déplorent la division. Ses soutiens, eux, y croient, vous les entendrez. La loi sur le pass vaccinal, toujours en discussion au Parlement. Le texte définitif devrait être adopté demain pour une adoption, une promulgation d'ici une semaine. La côte ouest des États-Unis est en alerte au tsunami après l'éruption d'un volcan sur l'archipel des Tsonga. Et puis bientôt le clap de fin dans le feuilleton Djokovic. La Cour fédérale australienne dira cette nuit si le numéro 1 mondial du tennis peut participer à l'Open de Melbourne. Plus près d'ici, c'est un dimanche tout gris que nous annonce Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Cette fois, c'est officiel. Christiane Taubira se lance dans la course à la présidentielle. Devant ses soutiens rassemblés à Lyon, l'ancienne garde des Sceaux a dit vouloir revigorer la démocratie. Parmi ses priorités, la jeunesse et la justice sociale, avec la création d'un revenu étudiant de 800 euros et la revalorisation du salaire minimum. Christiane Taubira se soumettra au vote de la primaire populaire, un scrutin citoyen prévu du 27 au 30 janvier. Mais les autres candidats déclarés à gauche, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, tous en lice pour cette primaire populaire, ont déjà annoncé qu'ils ne tiendraient pas compte de ce résultat. Alors Christiane Taubira contribue-t-elle à fracturer encore plus une gauche déjà éparpillée façon puzzle? Ses soutiens sont persuadés qu'elle peut entraîner tout le monde derrière elle. Reportage à Lyon avec des militants qui y croient, signé Antoine Gignot.
Ce sont surtout les jeunes qui applaudissent l'idée d'un revenu minimum pour les étudiants. Thibaut, Camille et Valériane ont entre 26 et 27 ans. Ils gardent en tête l'action de l'ancienne garde des Sceaux pendant le quinquennat de François Hollande.
Moi j'avais 20 ans à cette époque-là. Taubira, le mariage pour tous, c'est quelque chose qui incarne la gauche.
C'est une femme qui a des origines, qui est racisée, qui a un parcours politique impressionnant.
Pour moi, elle dépasse la politique en fait. C'est une figure, c'est presque philosophique, humaniste, enfin c'est de l'amour.
De l'amour et du calcul politique aussi pour une partie des militants. Quentin Cellier et Benoît Fondini font partie du collectif Taubira 2022.
Comme elle l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est pas une candidature de plus, elle veut pas s'ajouter à la liste des candidats déjà existants à gauche.
Moi j'ai pu voter Mélenchon en 2017. Là aujourd'hui, cette année, j'ai envie de voter Taubira pour le symbole qu'elle apporte. L'urgence de gauche en France est trop importante. Le but pour moi, c'est qu'il y ait une union.
Mais le rapprochement est encore loin. Au PS, Patrick Mennucci, soutien d'Anne Hidalgo, parle de division supplémentaire. Dans l'équipe de Christiane Taubira, l'ancien député socialiste Christian Paul assure de son côté que l'horizon va s'éclaircir. Il espère le retrait de plusieurs candidats avant le début du mois de février.
Antoine Gignot et la réplique d'Anne Hidalgo n'a pas tardé. Chacun est libre de faire ce qu'il entend et maintenant projet contre projet, a dit la candidate socialiste à la présidentielle en déplacement à Villeurbanne. L'actualité politique de ce week-end, c'est aussi un clip de campagne qui fait débat. Marine Le Pen a publié une vidéo tournée devant le musée du Louvre sans autorisation. La direction du musée réfléchit à un recours contre la candidate du Rassemblement National. Et puis les mots d'Éric Zemmour prônant la scolarisation des enfants handicapés dans des établissements spécialisés. Il suscite une bronca générale des politiques comme du milieu associatif. On y revient dans le journal de 19h. Le gouvernement, lui, espère pouvoir promulguer très vite la loi sur le pass vaccinal, appelé à remplacer le pass sanitaire. Le texte devrait être adopté demain pour une entrée en vigueur d'ici une semaine ou 10 jours. Principal changement pour les 16 ans et plus, un test négatif ne suffira plus pour avoir un pass. Il faudra désormais obligatoirement être vacciné ou en rémission du Covid. Pendant ce temps, l'épidémie continue de galoper, la faute au variant Omicron, très contagieux, mais qui semble moins dangereux que son prédécesseur, le variant Delta. Et les autotests font désormais partie de notre quotidien, plus rapide qu'un test antigénique ou PCR quand on est cas contact. Depuis la fin décembre, les autotests sont en vente dans les grandes surfaces, et ce, jusqu'à la fin du mois de janvier. Et ça simplifie la vie des Français, explique Dominique Schelcher. Le président de l'enseigne Système U plaide pour étendre cette autorisation.
C'est une vente soutenue. On a beaucoup d'appels dans les magasins pour savoir est-ce que vous en avez, est-ce que vous en recevrez de nouveau quand il y a une rupture. Donc c'est une vente attendue, c'est une vente service du quotidien des gens, ça leur facilite la vie. Je profite de votre micro pour faire un appel au gouvernement et pour leur dire qu'aujourd'hui le texte prévoit un arrêt au 31 janvier. Évidemment, on demande le prolongement de cette vente au-delà du 31 janvier. dans un esprit de service, parce que c'est le quotidien des gens aujourd'hui. Il y a une vraie, on sent quand ils nous appellent, une vraie inquiétude sur le sujet. Libéralisons ça au-delà du 31 janvier. Le temps de cette crise, vous savez, ça fait des années qu'on vend des tests de grossesse, donc voilà, ça ferait un test de plus dans les rayons des magasins.
Dominique Schelcher était l'invité d'Alexandra Ben Saïd dans On n'arrête pas l'écho sur France Inter. Alerte au tsunami sur la côte ouest des États-Unis après l'éruption hier d'un volcan dans les îles Tonga. Les services météorologiques américains demandent aux habitants des zones concernées de quitter les plages, les ports et les marinas. Tout est parti d'une éruption massive sur cet archipel du Pacifique. Correspondance aux États-Unis de Sébastien Paour.
De grandes vagues qui s'écrasent sur le rivage et obligent les habitants à se réfugier en hauteur. L'eau qui tourbillonne autour des maisons et des bâtiments. Ce sont les images de l'archipel des Tonga sur les réseaux sociaux. Les images satellites, elles, montrent un panache de cendres de 5 km de large qui s'élève à 30 km au-dessus des îles du Pacifique. Le roi a été évacué de son palais sur la côte. L'essentiel des quelques 105 000 habitants aurait été aussi mis à l'abri. Il leur est conseillé de rester éloigné de l'océan, de faire des réserves d'eau et de porter des masques. L'armée néo-zélandaise, à plus de 2000 km de là, se tient prête à intervenir. L'alerte au tsunami touche aussi le Chili et les États-Unis, des états de Washington et de l'Oregon sur la côte ouest jusqu'en Californie et en Alaska. Alerte levée désormais à Hawaï, où l'on rapporte des ondes de tempête de 50 à 80 cm, mais pas de dégâts. Là aussi, il était conseillé de quitter les plages et les ports. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Novak Djokovic pourra-t-il briguer une 10e victoire à l'Open de tennis d'Australie? On le saura dans les heures qui viennent. Pour la deuxième fois, le gouvernement australien a annulé son visa. Le numéro 1 du tennis mondial est retourné en centre de rétention. La Cour fédérale va désormais trancher. Parmi les arguments du ministre de l'Immigration, Novak Djokovic, qui n'est pas vacciné contre le Covid, présente un risque sanitaire, un sentiment partagé par une partie de la population. À Melbourne, on voudrait bien tourner la page Djokovic, comme Suzy, cette Australienne francophone, rencontrée par notre correspondante Marion Tessen.
En fait, j'en ai ras le bol. J'espère que c'est la décision finale et qu'il va quitter le pays au plus vite. Parce que, je ne sais pas, les gens de Melbourne, on veut profiter du tennis, c'est ça? Pour moi, la priorité devrait toujours être la santé et la santé au travail. En fait, ce virus ne fait pas de différence avec les joueurs de tennis ou ceux qui nettoient les cours, ni le reste de staff de tournoi. À mon avis, c'est pour ça qu'il faut avoir les mêmes règles pour tout le monde. Il faut subir les conséquences.
Avec ou sans Djokovic, le tournoi de Melbourne commencera lundi. Et puis c'est leur deuxième match de l'Euro de handball qui se tient en Hongrie. Les Bleus, médaillés d'or à Tokyo, affrontent l'Ukraine. Le match vient de commencer. On fera le point dans le journal de 19h. Pour terminer, une pièce quasiment inédite pour le 400e anniversaire de Molière, le Tartuffe ou l'Hypocrite. La version originale de ce classique, censuré par Louis XIV, sera jouée ce soir dans la Maison de Molière à la Comédie Française. Et pour la première, la pièce mise en scène par Ivo Van Hove est retransmise en direct dans 200 salles de cinéma partout en France. Un œil sur le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et c'est un dimanche gris qui s'annonce, Jean-Michel Golinski.
Pas mal de nuages à prévoir ce dimanche dans la moitié nord, ponctué de pluies faibles le long de la Manche, où le vent d'ouest sera sensible vers 50 km à l'heure. Auparavant, en fin de nuit, les brouillards seront nombreux et même souvent givrants, compte tenu des températures comprises entre 0 et moins 4 degrés. Plus bas, notamment au sud d'un axe Gironde-Limousin-Val-de-Saône, le soleil va rapidement venir à bout des brouillards de vallée, également givrants, puisque les températures nocturnes atteindront moins 3 à moins 6. En journée, c'est près de l'océan et de la Méditerranée qu'il va faire le plus doux, entre 10 et 13 degrés, 15 pour la Corse, tandis qu'un air plus frais, entre 3 et 7, va persister sur les autres régions.
Merci Jean-Michel Golinski de Météo France.